Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud, traité Baba Batra, page 119, Daf Kufyud Tet. Bonne écoute et bon limoud.
La Gemara répond, l'olam bate avot khashiv. Toujours, il faut comprendre que le Navi y compte seulement les 6 parts des branches principales de la tribu de Menaché. Ah, alors, pourquoi est-ce qu'il en compte 10? Pourquoi il ajoute les 4 parts des Bnot Sofrad? Non, pas du tout. La même envergure, ce sont que des petites filles, et elles n'ont même pas reçu de part personnelle, elles n'ont fait que hériter des parts de leurs ascendants. La Gemara répond, ah, Kamash Ma'alam. Le Navi veut nous faire comprendre, lorsqu'il comptabilise les 4 parts des Bnot Sofrad, que Bnot Sofrad natlu chelek bechora, pour nous faire comprendre que, entre autres, puisqu'elles ont pris 4 parts, il y avait forcément la part du bechor qui revenait à leur père, Alma. Et donc, Eretz Israël Mosekati, il voulait nous faire comprendre que même si les Bnei Israël n'ont pris possession d'Eretz Israël, qu'au bout des 40 ans des pérégrinations dans le désert, malgré tout, Eretz Israël, elle était déjà acquise aux Bnei Israël depuis la sortie d'Égypte et même avant. Et c'est ce qui a permis à Tzolofrad de faire valoir son droit de Bechor sur l'héritage de Khéfer, son père. Parce que si Eretz Israël n'était pas acquise depuis ce moment-là, elle n'était que un bien à venir, un raouille, à ce moment-là, tout le monde sait que le Bechor n'a pas de part dans ce qui est raouille, dans ce qui est à venir dans le patrimoine de son père. Et Tzolofrad, et donc ses filles, n'auraient pas eu 4 parts, mais seulement 3. Et c'est donc pour nous faire comprendre cet enseignement magistral que Eretz Israël nous appartient depuis les Avot, Avraham et Yaakov, elle est déjà une acquisition consommée. C'est pour ça que l'auteur du Sefer Yehoshua, il s'est permis de mélanger, si on peut dire, les 4 parts des descendants avec les 6 parts des branches principales de la tribu de Menaché à Marmor. C'est maintenant l'auteur de la Gemara qui poursuit l'étude de la Beraita qu'on avait rapportée d'Afkufuzain, où on avait dit que les Mitlonanim Badat Korach eux-mêmes n'ont pas reçu de part d'Israël. Leur part, elle a été fondue et redistribuée à tout le reste du clan d'Israël. Par contre, à Banim, il est possible que leurs enfants natlu bisrut avi avihem ou bisrut avi imothem, par le fait d'un héritage de leur grand-père paternel ou maternel, ils ont pu avoir eux-mêmes une part d'Eretz Israël. Alors sur cela, l'auteur de la Gemara demande, il dit pourtant Hatania. Voilà, on nous enseigne dans une autre braïta, le Bisrut Atzman. Ils ont reçu, ces enfants, des Mitlononim et Nadat Korar. Ils ont reçu une part par leur propre droit. Alors Gemara répond, Lokasha. C'est pas difficile à comprendre qu'il puisse avoir deux points de vue. Ha, Keman le Amar, Lyotz et Mitzrayim. Il y en a une braïta, celle qu'on a rapportée plus haut, qui pense que les enfants des Mitlononim et de Hadat Korach n'ont pas de droit. Ça reflète la vie de Rabbi Yoshia. Il pense qu'il n'y a que ceux qui sont sortis d'Égypte qui ont reçu une part. Et ces enfants des Mitlononim et de Hadat Korach qui avaient moins de 20 ans au sortir d'Égypte, alors naturellement ils n'ont pas eu de part. Et comme leurs parents, ils ont perdu leur droit à avoir une part en Israël, le seul droit qui puisse leur rester, c'est celui de leur grand-père maternel ou paternel. Et la deuxième braïta, elle pense que Mandama, le Ba'e Haaretz, c'est à ceux qui sont entrés en Israël, on a distribué les parts. Et donc, même si leurs parents ils étaient mitlonimes ou ils faisaient partie de la Alat Korach, eux-mêmes, en arrivant en Eretz Israël, ils pouvaient parfaitement avoir un droit personnel à recevoir une part d'Eretz Israël. Et Baït, si tu veux, Ima peut dire aussi une autre explication pour expliquer les points de vue des deux Baraitot. Je peux dire, Ha, Veha, les deux Baraitot, elles pensent, les Baï Haaretz, on a distribué, on a remis les parts seulement à ceux qui avaient 20 ans en entrant en Eretz Israël. Lukasha et les deux points de vue, ils ne sont pas contradictoires, parce qu'on va dire Ha Dehava Ben Esrim. Celle-là, la deuxième Raïta, qui dit qu'ils avaient des droits personnels, elle parle de ceux Dehava Ben Esrim qui avaient déjà 20 ans en entrant en Eretz Israël. Ha et la première Braïta, Tafruf Yuzayin, elle parle de ceux des Lo Hava Ben Esrim qui n'avaient pas 20 ans en entrant en Eretz Israël et donc ils n'ont pas pu avoir un droit personnel, comme leurs parents n'ont pas reçu de part, parce qu'ils faisaient partie des Mikolonim ou de la Tadkorah, alors ils n'avaient d'autres possibilités que d'hériter de leur grand-père paternel ou maternel la part que leurs frères ou leurs cousins qui avaient 20 ans en entrant en Israël, ils ont pris et qu'ils ont remis à leurs ascendants qui étaient sortis d'Égypte, et ces ascendants l'ont fait hériter par voie normale de l'héritage à tous leurs descendants, y compris ces petits-enfants qui n'ont pas 20 ans en entrant en Eretz Israël et qui étaient des enfants des Mitlonim ou de la Latkora. On revient maintenant à la Mishta. On avait dit que les Bnot Sofrad, elles ont pris trois parts. L'une de ces trois parts venait du droit de Bechor que Tzofrad, leur père, il était et qui avait hérité de Khefer, leur grand-père. Alors, la Gemara demande Bahamai, et pourquoi donc Tzofrad, il a pu prendre la part de Bechor dans le territoire que Khefer, il a reçu. On sait que le Bechor ne prend de part que des biens que son père possède au moment où il décède. Or, la terre d'Eretz Israël, elle n'a pas été acquise à Khefer au moment où il est décédé, puisqu'on en a pris possession bien plus tard, 40 ans. Après les 40 ans de pérégrination au désert. Ve'en ha-Bechor notel Be'ahoui que Be'murzak. Et le Bechor ne prend pas sur les biens à venir à son père de part, mais seulement sur les biens qui sont Murzak, qu'il possède déjà au moment où il est décédé. Amar Yuda, Rabbi Yuda répond, Amar Shmuel non Shmuel, Be Yetedot Ohalim, le droit de Bechora de Tzlofrad, qui s'est exercé sur les pieux de tente, ça veut dire les biens mobiliers, et pas sur la terre d'Eretz Israël. Mais Tiv Rabba, il pose une question sur Rav Nachman, il dit, voilà, on trouve dans une braïta, Rabbi Yehuda dit, Benot Sofrad Natlu Arba Halakim, les filles de Sofrad, elles ont pris quatre parts chez Neymar, comme le Passouk dit, dans Yoshua, Vaipelu, Havle, Menaché, Asara. Il y a 10 parts qui ont échu au Chevet Menaché, dont les 6 des Batéavot, et les 4 parts des Benot Sofrad, qui incluent la part du Bechor. Et c'est bien des parts d'Eretz Israël dont il s'agit, et pas des biens mobiliers comme l'a dit Rav Nachman. Et donc on vient à la question, comment est-ce que Tzofrad il a pu bénéficier de cette part de Bechora, d'une terre que son père Khefer il n'avait pas encore entre les mains au moment où il est décédé. Et là, Amar Rabba, alors Rabba il dit que pour répondre à la question, on doit admettre que Eretz Israël, Mourzeket hi, elle était déjà acquise au Bnei Israël bien avant qu'il soit entré en Eretz Israël. et la répartition de chaque part à chaque famille n'est que la distribution d'un bien qui était déjà au clan Israël depuis la sortie d'Égypte. Métivé. La Gemara, elle est une question contre ce que Rava vient de dire, que Eretz Israël Mosaket, à partir de la Braïta qui suit. Amar Rabbi Hidka, Rabbi Hidka a dit, Shimon Hashakemuni Hayali Haver, j'avais un Haver dont le nom c'était Shimon Hashakemuni, Mitalmide Rabbi Akiva, qui était un des disciples de Rabbi Akiva. Le Kahaya Rabbi Shimon Hashakemuni Omer, voilà ce qu'il disait. Yodea haya Moshe Rabbeinu Shebenot Zelophehad Yorshot Hen. Moshe savait qu'elles avaient droit à l'héritage. Aval. Mais, lo haya yodea im notolot Heleg Bechora im lav. Ce que Moshe Rabbeinu voulait savoir, c'est est-ce que elles avaient droit, par le biais de leur père, d'avoir la part de la Bechora. Ouya Hayeta Parshat Nahalot Likatev à lui démocher. D'autre part, la parasha concernant les héritages, il aurait dû venir naturellement comme tous les enseignements que Moshe a transmis au Bnei Israël. Pourquoi donc on a dû passer par l'incident des Benot Zelophehad pour qu'on nous livre le contenu des Halachot concernant la Yerusha. Et là, chez Zahou Benot Zelophehad, comme les Benot Zelophehad étaient méritantes, Nirteva Aliadan, Hachem a attendu que le problème des Benot Zelophehad se soulevait pour nous dévoiler les Halachot concernant la Yerusha. De même, Yodéa et Amoshe Rabbeinouché Hamekoshesh Bemita. Moshe Rabbeinu savait parfaitement que le Mekoshesh il était Chayav Mita. Soit qu'il ait transgressé la Melacha de cueillir, comme pense l'Yerushalmi, soit qu'il ait transgressé la Melacha de Otsaha ou la Melacha de Mehamer, comme le pense le Talmud Bavli. De toute manière, il était Chayav Mita. Chez Neymar, comme il écrit, déjà Melacha de Leham Botumat. Ceux qui transgressent Shabbat, il est Chayav Mita. Aval. Lo haya yodea, beezo mita ahu yamut. Par contre, il ne savait pas quelle mort lui appliquer. Shkila, Srefa ou Chenek, d'autre part. Ouya haïta parashat makoshesh. C'est dit qu'à Teva, il devait mocher. Les informations concernant celui qui me khalel le Shabbat, on aurait pu très bien les enseigner dans la Torah sans passer par le biais du makoshesh lui-même. Et là, seulement enseigner Trayev Mekoshesh, Nirteva Aliado, comme le Mekoshesh était coupable, alors la Torah a choisi d'enseigner l'information concernant ce qui est mort et Shabbat par le biais de celui qui est coupable, la Maitra. Tout ça, c'est pour nous apprendre.
Vous êtes en plein cours de Gemara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Nous tournons maintenant la page. Chez Megalgolim, Zechut, en été Zakai. Le bien que le Créateur veut envoyer à l'humanité, il le fait par le biais de gens qui sont méritants. Et ici, les lois de l'héritage qui sont un bien, puisque c'est le signe que le capital acquis par la génération qui part, il n'est pas perdu pour la famille, mais au contraire, il profite à la génération qui arrive. Vechova, à l'aide de Chayav, lorsque le Créateur il a une forme de punition à faire parvenir à l'humanité, il le fait par le biais de gens qui sont coupables, comme le cas du Mekoshesh. Là s'arrête la Braïta, et la Gemara reprend maintenant la parole, elle dit, si on pense comme Rabba l'a dit, que Eret Israël, elle était déjà acquise à la génération qui sortait d'Égypte, si donc le Tana de cette Braïta, il pense comme Rabba que Eret Israël est acquise déjà aux Juifs qui sortaient d'Égypte, et donc réfère, il a déjà reçu sa part d'Eret Israël. Lorsqu'il meurt, sa part de Israël, elle est mourzeket.
comme faisant partie de son patrimoine. Et son fils Tselophrad, naturellement, il va prendre comme Bechor deux parts de cet héritage. Maï, Kamesav Kale. Qu'est-ce qu'il lui reste à douter à Moshe Rabbeinu, qu'il ne sache déjà? Et la Gemara répond, Higoufa, Kamesav Kale. C'est justement ce point-là où Moshe Rabbeinu était en doute. C'est-à-dire, est-ce que Eretz Israël était Mourzeked déjà, appartenait déjà au Yotze Mitzrayim, ou si au contraire, ils n'ont pas reçu eux-mêmes Eretz Israël, mais ils n'étaient que les héritiers de la promesse de recevoir Eretz Israël, et ce sont seulement leurs enfants, ceux qui sont entrés en Eretz Israël, qui ont reçu concrètement Eretz Israël. Et ce doute de Moshe Rabbeinu venait de l'interprétation des Psukim. Parce que le pasuk dit Vanatati ota lachem morasha ani Hashem. Quand Hashem il s'adresse aux bénis Israël qui sortent d'Égypte, il leur dit je vous donnerai l'Eret Israël, à vous en héritage. Le terme morasha il peut avoir deux sens. Ou bien il veut dire l'héritage que l'héritier reçoit, ou bien il veut dire l'héritage que le défunt il fait hériter. Et si l'intention d'Hashem c'est de dire au Yotzim Srim, je vous donne concrètement Eretz Israël depuis maintenant. Il aurait dû utiliser le terme Yerusha, qui lui, il est exclusif à l'héritage que le vivant soit du mort. Et il aurait dû dire, Vonatati ota lachem Yerusha ani Hashem. Et le fait, comme il leur dit seulement que Eretz Israël, c'est une moracha pour eux, ça veut dire qu'eux-mêmes, ils ne seront pas héritiers, mais ils feront hériter à leurs enfants. Et donc, si on s'en tient uniquement au terme Moracha, il semble que Eretz Israël elle soit seulement Rouya pour les Yotzei Mitzrayim et pas Mourzeket. Seulement, Hashem y ajoute Lachem, Venatati Ota Lachem Moracha. Donc, et Lachem ça veut dire à vous. Donc, il laisse penser que déjà maintenant, depuis la sortie d'Égypte, Eretz Israël appartient aux Yotzei Mitzrayim. Et cela n'est pas en contradiction avec le terme Moracha, parce qu'on a dit déjà que le terme Moracha il peut supporter les deux interprétations, soit la Yerusha que l'héritier il reçoit du défunt, soit la Moracha que le défunt il fait hériter à l'héritier. Dans les mots de la Gemara, ça donne. Il s'est écrit Venatati Otah Lachem Moracha Ani Hashem. Alors est-ce qu'il faut comprendre Yerusha, c'est un héritage déjà acquis au Yotzei Mitzrayim? Puisque le mot Moracha, il veut dire aussi bien Yerusha que Moracha. Et comme c'est écrit Lachem, ça veut dire déjà à vous, vous, Yotzei Mitzrayim, c'est un héritage acquis, Mabotchem, que vous avez reçu de Avraham Yitzhak Yaakov, Odina ou peut-être, chez Morishim, il ne faut pas tenir compte du terme Lachem. Parce qu'il veut seulement dire que c'est à vous la promesse de l'héritage d'Avraham Yitzhak Yaakov, mais ça n'est qu'une Moracha, c'est-à-dire un patrimoine qui ne vous appartient pas, mais que vous allez faire hériter chez Morishin, que vous allez faire hériter à vos enfants. Venan Yorshin, mais vous n'êtes pas héritier de Avraham Yitzhak Yaakov. On passe tous les. On lui a répondu du ciel, travaillou. Que ce sont les deux sens qu'il faut comprendre, c'est-à-dire que ça n'est pas seulement une moracha, un bien qu'ils vont faire hériter à leurs enfants, mais bien un héritage que eux-mêmes ils ont reçu concrètement d'Avraham Yitzhak Yaakov. Et l'essentiel de cette réponse, il est contenu dans l'expression « V'ha'avarta et nahalat avihen lahen » dont on a expliqué dans la Braïta « Kufit chet amunbet » que ça voulait dire « Zehrelek bechora » c'est la part de bechora que Tselophrad il a reçu de son père Réfer, que ses filles, les filles de Tselophrad, elles ont hérité. Et donc, quand Hashem il a dit « Venatati otah lachem morasha ni Hashem » ça voulait dire Yerusha Lachem, vraiment, Mavotechem. Vous êtes déjà possesseur, vous qui sortez d'Égypte, d'Eretz Israël. Je vous la donne déjà depuis maintenant seulement. Vous êtes comme des héritiers qui habitaient loin, très loin de votre héritage. Et concrètement, vous ne pouvez pas en avoir jouissance. Et ce sont vos enfants qui vont être les premiers à en jouir. C'est en fait la prophétie. L'annonce que toute la génération qui sort d'Égypte, elle n'arrivera pas en Eretz Israël. Ils vont tous périr dans le désert. Et tout cela était contenu dans l'expression Natati Ota Lachem Moracha. Lachem, Ça voulait dire que vous êtes depuis maintenant les propriétaires, les possesseurs de la terre d'Eretz Israël. Mais ça n'est qu'une moracha pour vous. Parce que dans la pratique, vous n'aurez pas le privilège d'en jouir. Ce seront seulement vos enfants qui, eux, arriveront en Eretz Israël, qui auront le privilège d'en jouir. Dans la réponse qu'Hachem, il adresse à Moshe Rabbeinu, il précise sa kavana dans l'expression « Va'avarta et nahalat avihen lahem » Nabarika daf kuvyud chet amudbet, elle avait précisé « Zo chelek bechora ». Et si Selofrad il a droit au chelek bechora, c'est bien à dire que Eretz Israël est déjà mourzeket dans les mains de son père Hefer. La Gemara poursuit, elle dit « Vahinu dirtiv tu vi emo dita emo bar nahalat acha » Ça correspond bien à ce que les Bnei Israël ils chantent dans la Shira, ils disent « Tu vas l'amener, tu vas l'implanter sur la montagne que tu as choisi pour résider. » Et nous, l'on est mort. Ils ne disent pas « Tu vas nous amener. » Et là, « Tevi emo, tu vas l'amener, le clan d'Israël. » Mais pas nous, parce que nous, nous allons périr dans le désert. Et ce sont nos enfants que tu vas amener sur la montagne que tu as choisi pour résider. Toujours concernant les tractations des Benot Sofrad avec Moshe Rabbeinu, la Gemara apporte une braïta qui soulève le problème suivant. Dans le texte, écrit Vata Armodna, Lifne Moshe, Lifne Azar Kohen, Lifne Anesein. Les Benot Sofrad se sont tenus devant Moshe, devant Azar Kohen et devant les princes et toute l'assemblée du clan Israël. Alors la question, c'est Efchar Amdou Lifne Moshe. Est-ce que c'est possible qu'elle se soit tenue d'abord devant Moshe Rabbeinu, le Choulé, etc. C'est-à-dire ensuite devant Ela Azara Kohen. Velo Amoula Endava. Et ils ne leur ont rien répondu. Le Amdou. Et ensuite, qu'elle se soit présentée Lifne Anasim devant les princes, et après cela, le Cholaïda devant toute l'assemblée de l'Israël est là. Si Moshe et Hazar et les Nessim ne savaient pas, c'est sûr qu'il n'y avait plus l'utilité d'aller présenter leurs problèmes devant l'Aïda est là. Seulement, ce qu'il faut dire, c'est que ça reste à Mitra. Il faut inverser le Pasouk, le Darchehu, et l'expliquer. En fait, ils sont allés d'abord devant l'assemblée du clan Israël, et elles n'ont pas eu de réponse à leurs problèmes, elles sont allées ensuite devant les Nessim, et puis après auprès des Lazars, et à la fin auprès de Moshe Rabbeinu. Seulement, par déférence vis-à-vis de Moshe Rabbeinu, on a cité Moshe Rabbeinu en premier. Ça, c'est Divrei Rabbi Yoshia, c'est l'avis de Rabbi Yoshia. Abba Hanan Amar, lui, Abba Hanan dit, Mishmoabil Aezer, que Bebet Amidrash Hayu Yoshvin. Il y avait des représentants de tout le clan Israël qui étaient assis au Beth Amidrash, autour de Moshe Rabbeinu et de Elazar Kohen. Et Amdou Lahen, Lifne Kulan, elles se sont tenues devant l'ensemble de ceux qui étaient au Beth Amidrash. Elles ont exposé leurs problèmes. La Gemara demande de Mike à nous figuer. Alors, quel est le fond de la discussion qui est entre Abbi Yoshia et Abba Hanan? La Gemara répond, mort ça va, Abba Hanan. Au nom de Rabbi Eliezer, il pense Holkin Kavod la Talmid Binkom Harav. C'est pourquoi les Bnot Sofrad, ils ont présenté leurs problèmes devant l'ensemble de ceux qui siègent au Beth Amidrash, comme s'ils s'adressaient au Talmidim, et ça n'est pas considéré comme une atteinte au respect qu'elle doit vous mettre. Par contre, bon, l'autre maître, c'est-à-dire Rabbi Yoshia, Savar en Holkin. On ne doit pas manifester du respect envers l'élève devant le maître. Parce que devant le maître, il faut s'adresser au maître et uniquement au maître pour marquer plus fort encore le respect qu'on doit au maître. C'est pourquoi Rabbi Yoshua a dit que forcément, elles ne se sont pas adressées à l'ensemble de ceux qui étaient au Beth Amidrash en présence de Moshe Rabbeinu. Mais elles ont dû interroger ceux qui étaient au Beth Amidrash en l'absence de Moshe Rabbeinu et de Hazar et de Nessim, puis N'ayant pas de réponse, elles sont allées auprès des Nessim, et ensuite elles sont allées auprès des Lazar, et à la fin auprès de Moshe Rabbeinu. Toujours concernant les Bnot Tzelophrad, la Gemara apporte une braïta Tana. Bnot Tzelophrad, Hachmaniot Hen, elles étaient sages. Darshaniot Hen, elles avaient des qualités de talmudistes. Et Tzadkaniot Hen, elles étaient des saintes. Chachmaniot Hen, comment est-ce qu'on voit qu'elles étaient sages? Se ficha'a d'Iberon. Elles ont attendu leur propice pour intervenir auprès de Moshe Rabbeinu. Aussi important que soit leur problème, elles ne se sont pas précipitées pour déranger le Rav de manière impromptue. D'Amar, Rabbi Shmuel bar Rav Yitzhak, comme l'explique Rav Shmuel, Melamed, Shaya, Moshe, Rabbeinu, Yoshev, Doresh, Barshat, Yabmin. Il y a un indice dans la paracha des Benot Sofrad qu'elles sont intervenues auprès de Moshe Rabbeinu au moment où il était en train d'expliquer la paracha du Yiboum. Mais la Braïta ne nous précise pas quel est cet indice, et dans les Rishonim, je n'ai pas trouvé non plus d'indication à ce sujet. Il me semble que Rav Shmuel veut faire ici allusion à la Gzera Shava qui est rapportée dans le Sifri de Rabbi Yehuda, Ne'emar Kan Shem. Ici, dans la parasha de Sofrat, c'est écrit Lama Yigara Shem Avinu Mitoch Mishparto. Pourquoi Ne'emar Lalan Shem. Plus loin dans Sefer Devarim, concernant Yiboum, c'est écrit également Yakum Hashem Achiv. On parle et là-bas également de Shem, c'est l'enfant qui va naître du Yabam Yabama, il sera au nom du frère qui est mort sans enfant. Et le fait qu'il y ait le même mot Shem, Shem, dans les deux parashiot, ça fait nous indiquer qu'il y a un lien entre ces deux parashiot. Notre Sofrat, lorsqu'elles disent la Maïgara Hashem Avinu, c'est ça ce qu'elles veulent dire. Donc, toi, Moshe Rabbeinu, puisque tu parles de Yakum Hashem Achiv, le mitzvah de Yiboum, alors nous aussi, on a une revendication à ce sujet. Voilà. Si nous sommes considérés comme des garçons pour la descendance, alors tu n'as la nous, nahalad, nous, une part en Eretz Israël. Sinon, que notre mère se fasse Yiboum, puisque nous ne sommes pas considérés comme descendance. Miyad, aussitôt, va yakrev Moshe et Mishmatan, ifne Hashem. Moshe, il a présenté leur requête devant Hashem. Elle poursuit, elle dit Darshaniot hen libnot lofran, elles avaient des qualités de talmudiste, puisque elles ont dit Shayomrot, il loya lo ven lo divano. Si notre père avait eu un garçon, nous n'aurions rien dit. Ça veut dire qu'elle savait déjà que le garçon il hérite. Et d'où est-ce que elle savait que le garçon hérite même si la fille n'hérite pas? Ça veut dire qu'elle connaissait la parcha de l'héritage des Avadim Knanim, Dipnahaltem Otam, Livnechem Acharechem, Livnechem Velo Livnotechem. J'ai expliqué la Gemara comme les Tosafot, à cause des objections qu'il y a contre le Tchad du Rajbam. La Braïta poursuit. Sadkaniot Hen, c'était aussi des femmes saintes, de grande moralité. Shelonisehu Ela Lagunahen. Elles n'ont pas accepté de se marier tant qu'elles n'ont pas trouvé quelqu'un de convenable et qui correspondait à leur aspiration spirituelle. D'ailleurs, à ce sujet, Tani Rabbi Eliezer, il y a une Braïta qui dit au nom de Rabbi Eliezer ben Yaakov, Afilou Ketana Shebahen, même celle qui s'est mariée la plus jeune parmi elles, Lo Niset Pruta Mirbaim Shana, s'est pas mariée avant 40 ans. Alors, Gemara s'étonne, et ni, c'est vrai ça? Vera Amar Avchazda, Avchazda, il a dit, Niset Pruta Batesrim Yodet Ada Shishim, une femme qui se marie avant 20 ans, elle peut avoir des enfants jusqu'à 60 ans. Bat Esrim, c'est se marier après 20 ans, Yoledet Ad Arbaim, peut avoir des enfants seulement jusqu'à 40 ans. Bat Arbaim, c'est se marier après 40 ans, Shuv Ena Yoledet, elle ne peut plus avoir d'enfants. Parce qu'elles ont pu accepter de retarder leur mariage ainsi. Elle me répond, Ela Mitorch et Tzadkaniot Hen, comme elles avaient un degré spirituel très élevée. Elle était sûre que Hachem leur ferait un miracle. Nes, que Yocheved, elles ont eu le même Nes que Yocheved, qui, on le sait, elle a eu un enfant très tard, Mirtil. Vayeler ish mibet Levi, vayikach et bat Levi. Amram, le père de Moshe, il est allé réépouser sa femme qui avait répudié à cause des xérotes du Pharaon. Et on sait que, à la suite de ce remariage, Moshe Rabbeinu est né.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Hayomi, quotidiennement en vidéo.